Chers amis auditeurs, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver ensemble. Nous continuons avec notre petit livre de l'Apocalypse. J'espère que chacun d'entre vous, vous familiarisez simplement avec ce livre. C'est vrai, c'est important qu'on puisse le lire, qu'on puisse simplement, je vous rappelle le verset 3 ou 4 d'Apocalypse chapitre 1, hein, où il est dit « Heureux celui qui lit ce livre et qui écoute les paroles ». Alors, en écoutant la radio, en écoutant les paroles qui parlent de l'Apocalypse, il y a une béatitude qui vient vous toucher. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Jésus lui-même. Et je vous rappelle que ce que Jésus-Christ a dit est vrai. Hein, c'est Apocalypse chapitre 1, verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et garde ce qui s'y trouve écrit. » Et moi-même, vous voyez, en faisant mon travail là, je vous permets de recevoir des bénédictions. Et forcément, moi-même, je suis aussi béni, non? Donc tout le monde y gagne et c'est magnifique et c'est beau. Et un jour, on sera récompensé pour tout cela en se retrouvant au ciel auprès de Dieu. Donc, Apocalypse 1, vision du Christ glorieux. 2 et 3, le reproche de cette église. Je sais que déjà ça rentre dans votre tête, que vous commencez à devenir des baos des saintes écritures et que vous commencez à aimer l'Apocalypse. Ensuite, Apocalypse chapitre 4, on ne revient plus, mais brièvement, le trône avec quelqu'un dessus, le Père, arc-en-ciel qui fait alliance, les 24 veillards, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Ensuite, l'Esprit Saint qui est présent sous les éclairs, les voiles, les tonnerres et les 7 lampes de feu, la mère de cristal, la Vierge Marie et le Christ dans son mystère d'incarnation, donc les 4 vivants. Ensuite, donc, on avait vu maintenant Apocalypse chapitre 5, et on avait vu que le Père, qui était assis sur son trône, avait dans sa main un livre scellé de 7 sceaux que personne ne pouvait ouvrir. Et il y a un ange qui dit donc à Jean, hein, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ? Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. » Nul, personne. Le salut n'est pas à notre niveau. Ce n'est pas nous qui nous sauvons nous-mêmes. Alors si vous voulez, on pourrait même en profiter, vous voyez. Vous avez nos frères pentecôtistes là, qui sont chrétiens. Les frères pentecôtistes, je ne suis pas d'accord avec eux sur certaines choses. Et une des raisons avec lesquelles je ne suis pas d'accord, c'est que la nouvelle naissance ne suffit pas pour être sauvé. Et ce n'est pas parce que tu donnes ta vie à Jésus-Christ que tu iras au ciel. Ce sont des histoires. Ça, c'est faire de l'homme le sauveur de sa vie. C'est comme si toi, parce que tu as choisi de donner ta vie au Christ, tu vas recevoir le salut. Ça ne suffit pas. Tu peux choisir tout ce que tu veux dans ta vie, ce n'est pas toi qui te sauve. Et tu ne seras jamais sauvé parce que tu as choisi de suivre le Christ. Ce sont des histoires. Tu seras sauvé à une condition, c'est que tu acceptes de revenir à ton salut. Et ton salut, c'est quoi? C'est l'agneau immolé, c'est la croix de Jésus. On n'en sort pas, on est toujours dans Apocalypse 5. Et c'est pour ça que tant que le sang de Jésus-Christ sur sa croix ne va pas te toucher, tu ne pourras pas être sauvé. Tu peux contempler des crucifix autant que tu veux, avec du sang qui coule et tout ce que tu veux. Tu peux pleurer même, ça ne te sauvera pas. Pour être sauvé, il faut que le sang de Jésus-Christ te touche. Et aujourd'hui, posons-nous la question, comment est-ce que moi, aujourd'hui, je suis convaincu que je suis touché par le sang de Jésus-Christ qui me donne le salut? Eh bien, il n'y a pas 36 solutions, c'est Romains chapitre 6, le verset 3. Et dans Romains 6, 3, il est dit, « Ignorez-vous que lorsque vous êtes baptisé dans la mort du Christ. » Et le baptême me lie directement à la croix de Jésus. Et c'est pour ça que la nouvelle naissance ne suffit pas pour être sauvé. Il faut aussi recevoir le baptême. Le baptême qui, je vous rappelle, est un sacrement qui sauve, parce que l'Église sauve. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'églises autour de nous qui sont des églises qui vous disent que l'Église n'est pas importante, les sacrements ne sont pas importants. Ce sont des histoires, qu'on ne nous trompe pas. D'ailleurs, dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 21, il y a un passage où saint Pierre lui-même dit « Le baptême qui vous sauve actuellement. » Le baptême qui est un engagement à suivre le Christ selon une bonne conscience. Ce baptême qui vous sauve actuellement. Le baptême est un sacrement qui sauve. Dans Marc, chapitre 16, verset 16, il est dit « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. » Pour être sauvé, il faut croire. Nouvelle naissance, c'est vrai. Et il faut aussi être baptisé. Et c'est pour ça que dans le sacrement du baptême, le sacrement, c'est Dieu qui se donne à moi. Alors, la définition habituelle que les catéchistes nous donnent du sacrement, c'est « signe sensible institué par Jésus-Christ pour nous donner sa grâce ». C'est vrai, la définition est exacte, mais je n'aime pas cette définition parce que c'est compliqué pour rien. Si, il faut comprendre, le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est Jésus lui-même qui veut venir agir dans ta vie. Et à travers les ministres de l'Église, le sacrement que tu reçois fait que Jésus-Christ vient te toucher pour te donner le salut. Dans le baptême, c'est Jésus-Christ sauveur qui vient sauver l'homme du péché originel pour lui permettre d'avoir la vie divine. Dans la confession, c'est Jésus-Christ, pardonneur, je ne sais pas comment il faut dire, qui vient te donner l'absolution en disant « Moi, je te remets tout le péché au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » C'est Jean chapitre 20, verset 23. « Tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Tous ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. » Et dans le sacrement de la confession, c'est le Christ lui-même qui vient arracher tes péchés. Dans le sacrement du baptême, c'est le Christ lui-même qui vient te donner cette vie divine. Dans le sacrement de la confirmation, c'est le Christ lui-même qui veut donner la force de l'Esprit Saint pour pouvoir évangéliser et parler de Dieu aux autres. Dans le sacrement de la communion, c'est Jésus-Christ ami, amoureux de toi, qui veut vivre le corps à corps avec toi. Mais les sacrements, c'est quelque chose de génial. Et les sacrements, c'est quelque chose qui nous dépasse. Les sacrements, c'est quelque chose qui vient de Dieu, qui ont été inventés par Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit, et on n'en sort pas, l'Église a été voulue par le Christ et par Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut vouloir l'Église pour nous donner des sacrements. Aucun homme sur terre ne peut inventer une église et donner des sacrements. Les sacrements sont donnés par Dieu et c'est quelque chose de divin qui est là pour nous sanctifier. Et donc pour recevoir le salut, j'ai besoin du baptême. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une église dans laquelle nous pouvons recevoir bien les vrais sacrements. Alors, tout ça pour revenir donc à mon livre de l'Apocalypse dans lequel on dit « Nul, personne, dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. » Le salut ne peut être donné que par Dieu et Dieu seul. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut, par son désir de nous sauver, offrir sa vie pour compenser la faute que nous avons eue envers Dieu à travers Adam et Ève. Et c'est pour ça que je pleurais beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et Jean pleure. Alors pour réfléchir sur les pleurs de Jean, vous voyez, revenons aussi aux pleurs de Jésus. Jésus-Christ a pleuré. Pour ceux qui connaissent bien la Bible, il a pleuré deux fois. La fois où il a pleuré, qui est la plus connue, c'est dans le plus court verset de la Bible, dans Jean chapitre 11, le verset 35, où il n'y a que deux mots. C'est le verset le plus court, c'est « Jésus pleura ». Jean 11, 35. Et lorsque Jésus-Christ a pleuré sur son ami Lazare. C'est ce qu'on dit, non? On a dit que Lazare est mort, et comme Lazare est mort, Jésus-Christ a pleuré son ami qui est mort. Je vais me permettre de faire une interprétation de Jean 11 qui sera un petit peu différente. Et on va relire ensemble. C'est important de revenir à la Bible. En revenant à la Bible, de pouvoir aimer les Saintes Écritures et de ne pas hésiter à ouvrir la Bible pour lire. Et ceux d'entre vous qui m'écoutez, qui avaient le temps, qui avaient votre Bible à côté de vous, ouvrez l'évangile de Jean, le chapitre 11. On va méditer ensemble ce chapitre de Jean 11. Jean 11 qui va aussi avec Jean 12. Jean 11 et 12 sont liés. En ce sens où, dans Jean chapitre 12, on nous parle de l'onction de Béthanie. Et l'onction de Béthanie, c'est Marie qui va offrir un parfum sur les pieds de Jésus. Et Marie va offrir ce parfum d'un grand prix, c'est une année de salaire, qu'elle va verser sur les pieds de Jésus. Pourquoi ? Justement pour rendre grâce à Jésus-Christ, pour lui dire merci d'avoir ressuscité son frère Lazare dans Jean au chapitre 11. Jean 11 et 12 sont liés. Comme nous sommes dans l'Apocalypse, il faut voir aussi qu'il y a un lien entre Apocalypse chapitre 12 et Apocalypse chapitre 13. Ces deux chapitres vont ensemble. Le jour où vous avez l'occasion, n'hésitez pas à lire Apocalypse 12. On en a parlé un petit peu, c'est la femme enveloppée du soleil. Face à elle, le dragon rouge-feu avec sept têtes qui est prêt à dévorer l'enfant qu'elle vient de mettre au monde. Et ensuite, juste après au chapitre 13, ce dragon rouge-feu va faire une association et va s'allier la bête de la mer et la bête de la terre. On a les dragons rouge-feu, bête de la terre, bête de la mer, l'antipère, l'antifils, l'anti-esprit saint. On aura l'occasion de voir ça, je pense, d'ici quelques jours. Alors je reviens, moi, dans Apocalypse chapitre 5, on voit donc Jean qui pleure. C'est le disciple bien-aimé. C'est quand même un vieillard, quand il écrit l'Apocalypse, il n'est pas tout jeune. Et c'est vrai que c'est beau de voir un homme pleurer. C'est magnifique. Et c'est émouvant. Moi, j'ai vu mon père pleurer une fois et demie. La première fois où il a pleuré, c'est lorsque on a appris en 1982, quelque chose comme ça dans ces années-là, que ma mère avait un cancer. Et lorsqu'elle a été opérée, en sortant du bloc opératoire, moi j'étais pas là-bas, mais on m'a raconté, il y a une infirmière qui a transporté ma mère et qui a dit dans le couloir, c'est dommage, une femme si jeune. Et mon père était là et mon père a écouté. C'était en 1982 ou 83, 84. Ma mère est encore vivante jusqu'à aujourd'hui, C'était un cancer d'Hodgkin, et puis elle a été soignée, elle va bien, il n'y a pas de souci. Mais mon père a été profondément troublé. Et je crois quelque part même que ça lui a permis de mieux comprendre qui était son épouse, Quelquefois, il faut des petites expériences comme ça pour pouvoir se ressouder les uns les autres. Et c'est là je ne l'ai pas vu, mais on m'a dit qu'il avait pleuré. Et puis, l'autre fois où je l'ai vu pleurer, il a versé une larme et demie. C'était lorsqu'il est venu à Saint-Jodard, dans notre maison de formation. Moi, j'étais déjà frère de Saint-Jean depuis quelques années. Et il est venu déposer ma sœur qui devait entrer aussi chez les frères de Saint-Jean. Et quand il a déposé, quand il est parti, j'ai vu que ses yeux étaient humides. Il a versé une larme du côté droit et une demi-larme du côté gauche. Mais c'est impressionnant parce que mon père, c'est un homme assez dur, assez fort, qui manifestait pas trop ses sentiments. Et le voir pleurer, c'est émouvant. Et voir Saint-Jean dans sa vieillesse, qui est là, qui reçoit et qui pleure, c'est quand même beau, c'est beau. Et il pleure, hein, parce que le livre scellé n'est pas ouvert, parce que le salut n'est pas donné aux hommes. Je crois que c'est comme ça qu'il faut interpréter les pleurs de Jean. Et maintenant, essayons de voir comment nous devons interpréter les pleurs de Jésus dans Jean chapitre 11. Alors, on va lire, parce que Jean, et Jean, c'est toujours très beau, hein. « Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marthe et de Marie, sa sœur. » Alors j'en profite puisqu'on parle de Béthanie. Béthanie, vous voyez, Jésus, il nous a montré que c'est bon d'avoir un Béthanie. Hein. Et Béthanie, c'est quoi? C'est un petit village qui se trouve à côté de Jérusalem. Il faut peut-être 45 minutes ou 50 minutes depuis Jérusalem pour arriver à Béthanie. Et Jésus-Christ aimait se retirer à Béthanie. Et il faut de temps en temps savoir aimer se retirer à Béthanie. Et quand j'étais au Cameroun, j'y suis toujours d'ailleurs, mais quand j'étais au Cameroun à mes débuts, j'avais un ami qui était breton, qui était voisin de l'Anhéla, qui était directeur de la Camille Toyota à Douala. C'était 800 km de chez nous, mais c'est un bao, un boss. Et il avait une jolie maison avec un petit appartement, une piscine, tout ça. Et dès que les frères s'apercevaient que j'étais un peu tendu, qu'il fallait que je me repose un peu, ils me disaient « Tu ne penses pas que ce serait bien que tu ailles te reposer quelques jours à Douala ?» Et j'allais volontiers me reposer. C'était très, très agréable. Et c'est important d'avoir des lieux comme ça, qui sont des lieux sains, dans lesquels tu peux te reposer pour essayer de garder la forme et de savoir se reposer, parce qu'on a une nature humaine, oui, c'est vrai. Et puis cette nature humaine, eh bien, au bout d'un moment, il faut quand même qu'on sache... lui donner une petite baignade de temps en temps, une petite bière, voilà, c'est pas mauvais. Et donc, avoir un petit Béthanie, c'est pas mauvais. Il est bon de temps en temps se retirer dans un lieu où on a des amis et des proches avec qui bien on peut se reposer d'une manière saine. Et Jésus-Christ avait son Béthanie. C'est lorsque je suis allé en Terre Sainte, je suis allé deux fois en Terre Sainte, et la première fois où je suis allé en Terre Sainte, c'est là où j'ai compris pourquoi, dans l'Église catholique, on a bien fait de faire les croisades. Il faut mettre les choses au clair. Les croisades, c'est pas diabolique comme on veut nous faire croire. Les croisades, je suis arrivé en Terre Sainte, et en Terre Sainte, lorsque vous irez, ou si vous y êtes déjà allé, sur le haut du temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem, c'est 500 mètres de long sur 200 mètres de large. Et sur le haut du temple de Jérusalem, les Juifs à qui le temple appartient en premier lieu, puisque le temple de Jérusalem a été créé par les Juifs et pour les Juifs. Les Juifs, quand ils prient sur le petit mur là où on voit le pape de temps en temps déposer une enveloppe, le mur, c'est un mur de fondation du temple de Jérusalem. Donc, ils ont juste une fondation, un coin de fondation du temple de Jérusalem, parce que sur le temple de Jérusalem, qui a été entièrement détruit, il n'y a pas de place pour eux. Il n'y a pas de place non plus pour nous les chrétiens. Tout le haut du temple de Jérusalem est réservé uniquement aux musulmans, qui ont deux mosquées sur le haut du temple de Jérusalem, plus une école coranique. Et ma question que je me suis posée lorsque je suis allé la première fois, c'est pourquoi les musulmans sont-ils présents sur le haut du temple? Les musulmans n'ont rien à voir avec les juifs et les musulmans n'ont rien à voir avec les chrétiens. Mais c'est eux qui nous ont arraché le temple. Et les musulmans avaient arraché les lieux saints de Jérusalem. Ils avaient arraché l'église du sépulcre, toutes les églises qu'il y avait. Hein, et il a fallu, les chrétiens mouraient lorsqu'ils partaient en pèlerinage parce que des juifs leur faisaient ça dur. Et il a fallu donc qu'on prenne des moyens pour essayer de récupérer les lieux saints. La deuxième fois même où je suis parti à Jérusalem, il était interdit de monter sur le temple de Jérusalem si tu avais une croix. La fois d'avant, 15 ans ou 12 ans plus tôt, on pouvait monter avec une croix. Ensuite, on voit que les musulmans sont devenus de plus en plus radicaux et t'empêchaient même de monter sur le temple. Si tu avais une croix, il fallait la cacher ou la laisser dehors, sinon tu ne pouvais pas monter. Et comme je suis, la première fois où je suis allé à Jérusalem, j'ai eu la chance de rester une semaine après le pèlerinage qu'on avait fait seul. Et j'ai pu passer une nuit entière dans la basilique de l'Annonciation. J'avais demandé au sacristain là-bas, de m'enfermer dans le lieu où on dit que Jésus-Christ est né. C'était très beau. J'ai essayé de faire la même chose aussi à la résurrection, mais c'est plus pénible parce qu'il y a beaucoup d'offices dans la nuit, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de... Et puis, j'en ai profité aussi pour marcher à pied de Jérusalem à Bethléem, de Jérusalem à Béthanie. Et je voulais justement aller sur le tombeau de Lazare. Et j'ai été surpris de voir que le tombeau de Lazare, sur le tombeau de Lazare, il y a une mosquée musulmane. Qu'est-ce que les musulmans sont partis faire sur le tombeau de Lazare? Et donc, et au bout d'un moment, toutes ces choses-là sont des petits signes qui te font comprendre qu'il a quand même fallu qu'on puisse défendre ces lieux saints qui sont nos lieux saints. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a eu ce qu'on appelle les croisades. Alors voici Béthanie. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Vous verrez que Marie, dès qu'elle rencontre Jésus, elle se prosterne toujours tout de suite à ses pieds. Dès que vous voyez une femme qui se prosterne aux pieds de Jésus, là, en général, c'est Marie. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Dans le chapitre d'après, Jean 12, elle fera encore la même chose. Et à chaque fois qu'elle voit le Seigneur, elle touche toujours ses pieds. Elle se prosterne, comme on a vu dans Apocalypse chapitre 4. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » C'est très joli. Tu vois, on ne dit pas « Lazare est malade », on dit « celui que tu aimes est malade ». Parce qu'on sait que quand tu vas dire « celui que tu aimes est malade », Jésus va savoir que celui que tu aimes, c'est Lazare. Et ça montre bien la relation qui existe entre Lazare, Marthe et Marie. Et Jésus donc avait une relation particulière avec cette famille qu'il aimait. Il aimait Lazare, il aimait Marthe, il aimait Marie. Et c'est pour ça que ses sœurs peuvent dire en envoyant un serviteur, comme Lazare est malade, celui que tu aimes est malade. C'est très joli comme manière de parler. Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Alors j'insiste, hein, parce que quand on dit que Jésus-Christ pleure parce que Lazare est mort, il faut quand même savoir que lorsque le serviteur lui a dit « Celui que tu aimes est malade », il a dit « Cette maladie n'est pas pour la mort ». Alors il a pleuré parce qu'il est mort, il pleurait, il faut quand même réfléchir. « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Ça, c'est la lumière que le Christ nous donne sur cette maladie de Lazare. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Ils ont la chance, hein, d'être aimé Jésus comme ça, c'est quand même bien. Quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Et vous voyez que Jésus-Christ n'est pas pressé. Si on te dit, par exemple, aujourd'hui que tu as un ami qui a fait un accident, il est à l'hôpital, ben, dès que tu peux, le soir, tu vas aller faire un tour, tu vas aller le voir, tu vas aller visiter pour voir comment il va. Jésus-Christ, là, il reste pendant 2 jours. On ne dit pas qu'il s'excuse même parce qu'il était occupé. Il dit simplement que quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Il reste là, tranquille, sans souci. Son ami est malade, oui, ben qu'il soit bien malade, c'est pas grave. Et après 2 jours, il dit « Allons ». Les disciples lui dirent « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu y retournes ». Jésus répondit « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Si tu as la lumière de Dieu avec toi, tu n'as jamais peur. Et quand tu fais la volonté de Dieu, tu ne peux pas avoir peur. » Donc après ces paroles, il leur dit « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. » Les disciples lui disent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Je suis au verset 13. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Petit quiproquo qu'il y avait dans leur langage. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. » Je reprends. Je vous ai d'abord lu le verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Voilà la signification que Jésus-Christ donne sur la mort de Lazare. Les disciples lui dirent, Seigneur, il s'est endormi, il sera sauvé. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. C'est clair, c'est net, c'est propre. Il n'y a plus de quiproquo. Et il ajoute, « Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là afin que vous croyiez. » Il ne pleure pas, il se réjouit. Et au bout d'un moment, il faut quand même qu'on essaie de réfléchir à travers ce texte pour comprendre. Il va pleurer pourquoi ? Ce sont des larmes de joie ? Je ne crois pas non plus. Quelles sont ces larmes de Jésus ? Quand il dit que « Pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là. » Mais allons vers lui. Sur ce, Thomas appelé Didyme dit aux autres disciples, « Allons-nous aussi afin de mourir avec lui ?» Vous voyez que les apôtres, quand même, de temps en temps, étaient dans des situations un peu difficiles. Ils acceptaient de partir avec Jésus en sachant qu'ils vont mourir parce qu'on a déjà cherché à le persécuter par les chemins par où ils vont passer. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Un drôle d'ami quand même. Tu es là, tu dis que c'est ton ami, tu sais qu'il peut te sauver, il ne bouge pas, il reste là-bas, le temps de venir en marche à pied, et puis ça fait 4 jours que tu es mort. Et il est clair qu'à Béthanie, Marthe et Marie, ainsi que les Juifs qui étaient là-bas, devaient attendre quand même la venue de Jésus. Ils savaient que Jésus ne pouvait pas ne pas venir, c'était quand même le deuil de son ami. Et donc, ils attendent, ils sont là, il est déjà au tombeau depuis 4 jours, et Jésus-Christ n'est toujours pas là, et on attend de voir ce qu'il va faire. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Or, Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est intéressant parce que, vous voyez, il y a des petites jalousies quand même, je pense, entre Marthe et Marie. Parce que chacun essaye de se faire bien voir de Jésus, non? Et vous connaissez le passage dans lequel on voit comment Marie est au pied de Jésus pendant que Marthe s'agite à mettre le couvert et tout le reste. Et dans ce passage, on voit comment Jésus va dire « Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, une seule est nécessaire et Marie a choisi la meilleure part. » Et on voit les petites rivalités qui peuvent exister entre Marthe et Marie. Et dès que Marthe apprend que Jésus-Christ arrive, c'est elle qui va courir vers Jésus d'abord en premier lieu. Et on nous précise que Marie, elle, restait assise à la maison. Et Marthe dit à Jésus, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et au verset 32, « Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. » Je vous ai dit, Marie, c'est toujours les pieds de Jésus. « Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et Marthe et Marie disent exactement la même phrase à Jésus. Donc, analysons d'abord la phrase de Marthe, puis ensuite on verra celle de Marie. Donc, Marthe dit à Jésus, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle ajoute, « Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » On voit dans quel sens Marthe veut influencer Jésus. C'est comme s'il lui fait un reproche, c'est-à-dire, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Tu n'étais pas là, pourquoi ?» Toi qui as ressuscité les autres, toi qui fais des miracles, toi qui fais. Mais Lazare, ce n'est pas ton ami. Et c'est comme si quelque part, il y a un petit reproche qui est fait de part de Marthe. Mais Marthe lui dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Je sais que tu es tout puissant. Je sais que tout ce que tu vas demander, il le fera. Et disant que tu sais toi-même ce qu'il faut demander maintenant. Lazare est mort, demande alors qu'il ressuscite. Moi, je pense que le contexte, il est comme ça. Dieu te donnera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Et grâce à cette phrase de Marthe, on voit comment Jésus-Christ, lui, va répondre. Il nous donne cette réponse qui est très belle. Moi, en général, c'est le texte-là que j'utilise lorsque je dois célébrer un deuil. J'aime beaucoup célébrer les deuils. Quand j'étais à Berthaud, on était 4 frères à la cathédrale. J'étais le 4e vicaire, peut-être. Mais tous les frères savaient que dès qu'il y avait un deuil, allez d'abord chez le Père Ave Marie. Et c'est vrai que c'est beau parce que quand tu es au deuil, que tu vois un cercueil arriver, tu sais que c'est fini. Et c'est beau parce qu'il y a comme un absolu dans la mort qui fait que ben, soit on croit à la vie éternelle, soit on n'y croit pas. Et lorsque quelqu'un est mort, il est mort. Et j'aime beaucoup prendre ce passage. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu? Moi, je sais que je ne mourrai jamais. J'ai en moi de vie. La vie humaine va finir. Les asticots vont me manger. Je serai dans un cercueil, c'est clair. Mais je ne mourrai jamais. Parce qu'il y a une vie divine en moi que personne ne peut m'enlever. Je suis la résurrection et la vie. Et Jésus-Christ est la vie. Et il est le premier-né d'entre les morts. Et nous sommes à sa suite vainqueurs, même de cette mort physique et la conséquence du péché. Donc ce joli texte qui nous vaut la réponse de Jésus-Christ à cette question de Marthe. Maintenant, passons à Marie. Après avoir dit cela, elle s'en alla, puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit secrètement, « Le maître est ici, il t'appelle. » Elle lui a pas dit avant, Quand elle a su que le maître arrivait, elle est partie seule. Elle a laissé Marie assise. Et maintenant qu'elle a eu la réponse de Jésus, elle va dire, « Le maître t'appelle. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et se rendit vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie et qui la consolaient la virent se lever promptement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Lorsque Marthe fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle n'ajoute rien. Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient eux aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. C'est très joli. Jésus-Christ n'a pas été troublé quand Marthe a posé la question, parce que Marthe, elle est un petit peu rebelle. Marie, elle, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que ce que tu veux, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ne comprends pas et je souffre de l'absence de mon frère. Mais j'accepte, parce que si tu l'as voulu ainsi, c'est que c'est bon. Et on voit chez Marie quelqu'un qui veut coopérer avec Jésus. Et cette coopération avec Jésus fait que Jésus-Christ, il est ému, il frémit. Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondit-il, « Viens et vois. » Jésus pleura. Les Juifs dirent donc, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire que cet homme ne meure pas ?» Vous voyez, il y avait des Juifs qui étaient des opposants, qui étaient là, qui ne veulent jamais être d'accord. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car c'est le quatrième jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe est toujours un petit peu là. Il faut toujours la rectifier de temps en temps. Marie n'a rien dit, hein. Quand Jésus dit, ôtez la pierre, Marie laisse faire. Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, et là, je crois que c'est là que nous comprenons tout ce qui s'est passé dans Jean chapitre 11. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. La prochaine fois, nous continuerons un petit peu avec Jean 11. On essaiera de mieux comprendre ses larmes, les larmes de Jésus devant son ami Lazare. Bye bye et à bientôt.